France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Planète Terre. Comme chaque mercredi de 16h à 17h, nous sommes ensemble en direct depuis la maison de la radio pour ce rendez-vous avec votre intuition géographique. Alors, rappelez-vous, c'était il y a 6 mois. Tendez l'oreille.
L'accord de Paris pour le climat est accepté. Alors, on me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses.
Alors, un petit marteau peut faire de grandes choses. Un grand accord va-t-il faire de petites choses? Rappelons-nous donc, c'était il y a 6 mois, ce 15 décembre 2015, et dès le lendemain, la presse s'enthousiasmait. Je cite, par exemple, Sud-Ouest. On a encore du mal à mesurer l'énormité de l'avancée. Après 2 semaines d'intenses négociations à la COP21 au Bourget, 5 ans après l'échec retentissant du sommet de Copenhague et 21 ans après le protocole de Kyoto pour le climat au bilan plutôt mitigé, 195 pays réunis en assemblée plénière par l'ONU ont adopté ce samedi 12 décembre le premier accord universel pour lutter contre le réchauffement climatique. On l'a entendu donc à l'instant, c'est Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères de la France, hôte de pays hôte de cette conférence qui, déclarait victoire. Et pourtant, ce même journal titrait Sud-Ouest, après l'accord historique de Paris, tout reste à faire. Alors 6 mois plus tard, est-ce encore le cas ? COP21, 6 mois après, a-t-on un accord historique ou poudre aux yeux? C'est en tout cas le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors, élément de réponse avec 2 éminents spécialistes du changement climatique et des négociations climatiques, Ami Dahan et Jean-Pascal Van Ipperzell. Bonjour à tous deux.
Bonjour. Bonjour.
Ami Dahan, vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice adjointe du centre Alexandre Coiré. Vous êtes co-auteur de « Gouverner le climat, quel futur possible ?» 20 années de négociations internationales, un livre qui est paru en 2015 aux presses de Sciences Po. Et puis, vous êtes l'une des organisatrices d'un colloque qui se tient demain et vendredi à Paris, à la Sorbonne, et qui s'intitule « Après la COP21 ». Où en est la climatisation du monde? Et je précise que je ne savais même pas que vous organisiez ce colloque quand je vous ai invité, ou plutôt réinvité, car vous m'aviez fait l'amabilité de venir en novembre dernier, avant la conférence. Et donc voilà, il apparaît qu'on est un certain nombre dans le monde des médias et dans le monde de la recherche à avoir une idée convergente. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan? Jean-Pascal Van Ipperzell, vous êtes professeur ordinaire en climatologie à l'Université catholique de Louvain et vous avez été vice-président du GIEC de 2008 à 2015. Le GIEC, je le rappelle, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors, vous avez été un des acteurs, comment est-ce qu'on pourrait dire, au centre de cette grande machinerie que justement Ami Dahan étudie pour sa part. Donc voilà, et puis vous êtes bien sûr également un climatologue. Alors, vous avez publié, pour parler de votre expérience et de votre vie consacrée au climat, votre vie qui est très très loin d'être achevée, n'est-ce pas Jean-Pascal Van Ipperzell? Je ne voudrais pas qu'on croie que vous êtes à la fin, c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Mais vous venez de publier un livre d'entretien qui s'appelle « Une vie au cœur des turbulences climatiques », ce livre qui est donc paru également en 2015 aux éditions De Buck. Alors si vous le voulez bien, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître très triviale à l'un et à l'autre, mais est-ce qu'on peut revenir au texte, c'est-à-dire quels ont été les points clés de l'accord à Ami Dahan, rapidement?
D'abord, le fait que cet accord, donc, c'est la première fois qu'il est signé par 195 pays. Je crois que le grand caractère novateur réside déjà là. C'est finalement peut-être que Jean-Pascal Van Ipperzell entrera non, plus de détails. Moi, je retiens de l'accord principalement un certain nombre d'articles programmatiques, d'engagement. Les engagements précis qui caractérisaient la démarche et qui était une démarche qui, pour la première fois, était ce qu'on a appelé « bottom-up », c'est-à-dire les pays disent ce qu'ils vont faire, ce à quoi ils s'engagent. Ça, c'était en annexe de l'accord, donc ce n'était pas véritablement l'objet d'une négociation, mais on avait un calendrier pour les années suivantes de ces engagements, c'est-à-dire qu'on disait que ils seraient révisés et avec une certaine transparence en 2020, puis en 2023 et 2025, suivant les pays développés ou les pays en développement. Les pays en développement, on ne leur demandait des comptes véritablement qu'à partir de 2023 et 2025. Bien, il y avait cela. Il y avait un certain nombre d'engagements, mais assez généraux, je dois dire, de maintenir la température en deçà de 2 degrés et, si possible, 1,5 degré. Et ça, je pense que nous allons longuement y revenir. C'est un point clé quand même de cette affaire.
Bien sûr.
Et puis, il y avait aussi un certain nombre, comme d'habitude, c'est-à-dire les grandes clauses qu'il fallait combiner, adaptation et réduction, et puis qu'on allait mettre sur place un certain nombre de questions de transfert financier et technologique en direction des pays en développement pour les aider à faire face au changement climatique, mais beaucoup de ces choses sont quand même c'est un texte qui n'est pas contraignant, qui donne des directions.
Ah ben c'est l'ONU,
C'est l'ONU,
si
bien
l'ONU,
sûr.
Si l'ONU était contraignant, ça se saurait.
Ça se saurait. Et voilà, il y avait un certain nombre de directions assez ambitieuses dans les mots. Et voilà.
Bon, c'est une des raisons pour lesquelles on essaye 6 mois plus tard de voir ce qu'il en est. Alors, Jean-Pascal Van Ypersel, la manière que vous avez, vous, de nous raconter 6 mois après ce qui, pour vous, est essentiel dans ce fameux accord de Paris-Bourget.
Je dirais que ce qui est essentiel, c'est d'abord le renforcement de l'objectif qui avait été adopté à Copenhague déjà, dont on a parfois un petit peu trop dit que c'était un grand échec. Je crois qu'il y a beaucoup de choses importantes qui ont été décidées déjà à Copenhague en 2009. Copenhague avait décidé de tout faire pour rester en dessous d'un réchauffement de 2 degrés, d'envisager que ce 2 degrés devienne 1,5 degré. C'est quelque chose qui a été renforcé dans l'accord de Paris. Mais c'est un objectif qui a été complété par des objectifs en termes d'émissions globales, de maîtrise des émissions globales, puisque l'accord de Paris prévoit que ces émissions globales doivent atteindre un maximum, un pic, aussi vite que possible. Alors évidemment, aussi vite que possible, ça va être interprété différemment par les uns et par les autres. On est d'accord, mais c'est quand même important. Et puis alors, le troisième élément très important, outre ceux que Camille Daran a déjà cités, c'est l'objectif d'arriver entre 2050 et 2100 à des objectifs globalement, donc au niveau mondial, nul de gaz à effet de serre de manière nette, c'est-à-dire d'avoir autant d'émissions que d'absorption, de ne pas avoir d'émissions humaines qui soient plus importantes que les capacités d'absorption des écosystèmes et des océans. Et donc ça, c'est un point très important parce que ça donne un signal extrêmement clair que le chemin sur lequel l'humanité doit s'engager, c'est le chemin de la décarbonation complète de son économie et de ses activités.
Mais alors, là, Amida, vous voulez réagir tout de suite, je crois, non ?
Nous allons en discuter, parce qu'effectivement, là, je trouve que le signal n'est pas véritablement clair, de celui de la décarbonisation profonde du développement de l'humanité. Étant donné que, justement, il va falloir, comme l'a dit Jean-Pascal Van Ypersel, absorber autant qu'on émet, mais... Dans cette phrase, il y a des ambiguïtés et des choses pas claires du tout. Parce que pour le moment, on ne sait pas absorber ce qu'on émet. On ne sait pas massivement ces technologies-là d'absorption du carbone. Il faut qu'on en parle dans le détail. Mais je trouve que ça ne donne pas le signal des transformations colossales qu'on a à faire.
Jean-Pascal Van Iperzel.
Je suis pas du tout d'accord parce que on peut très bien, sachant, si on comprend bien comment le cycle du carbone fonctionne aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous émettons, les émissions humaines sont à peu près deux fois plus importantes que la capacité d'absorption des systèmes naturels. Donc, il y a une manière très simple d'arriver à cet équilibre entre émissions et absorption, c'est de ne plus émettre que la quantité qui peut être absorbée, non pas par des techniques qui restent à mettre au point, mais par les systèmes naturels. Et ça, ça veut dire progressivement arriver vers des émissions qui sont... d'abord réduite d'un facteur 2, puis d'un facteur 4, et puis qui finalement sont nuls. Alors évidemment, il va y avoir peut-être pendant un certain temps, on va avoir besoin de systèmes de captation artificielle de CO2, systèmes qui restent à mettre en œuvre et qui sont aujourd'hui seulement à l'état de prototype. Mais ça veut surtout dire qu'on doit aller vers une économie et une manière de vivre à la surface de la planète qui est beaucoup plus efficace à propos de l'utilisation de l'énergie. Donc utiliser l'énergie beaucoup plus efficacement que ce que l'on fait aujourd'hui parce qu'il y a des gaspillages énormes. Et d'autre part, ça veut dire produire cette énergie de manière beaucoup plus propre qu'aujourd'hui.
Alors, par rapport à ça, à ce que vous venez très précisément d'indiquer, Jean-Pascal Van Iperzel, et j'en profite pour dire aux auditeurs, j'ai oublié de le dire au début de l'émission, que vous êtes en duplex depuis le Centre international de presse de Radio France à Bruxelles, où vous êtes accueilli par Pierre Benazet, que je remercie. Par rapport à ce que vous venez d'indiquer sur, disons, la nécessité de ce qu'on peut appeler donc, de ce qu'on appelle couramment la transition énergétique, j'ai envie de dire que, au jour d'aujourd'hui, pour dire les choses de façon le plus neutre possible, et peut-être qui va paraître un peu naïve à certains auditeurs, on a des signaux contradictoires. Si je prends, par exemple, le numéro spécial qu'avait publié en novembre 2015 le magazine Alternative Internationale, un numéro consacré au climat, je vois, c'est des statistiques qu'on trouve notamment sur le site de l'IDRI, mais sur d'autres par exemple, que désormais, dans la production globale d'électricité à l'échelle mondiale, alors évidemment c'est pas du tout pareil selon les pays, mais que désormais, maintenant, on est en train de produire davantage, d'utiliser davantage d'électricité issue d'énergie renouvelable que d'électricité issue d'hydrocarbures ou d'énergie fossile. Et là, je ne parle que de l'électricité, bien entendu. Bon. Mais prenons un autre signe qui vaut ce qu'il vaut. On en a beaucoup parlé, en tous les cas, en France. Le 24 mai dernier, Élise Lucet, dans son émission Cash Investigation...
Mais je l'ai vu.
Vous l'avez vu, ben voilà, donc on en a beaucoup parlé en France et peut-être en Belgique, grâce à vous notamment, puisque si vous, vous le regardez, ça veut dire à quel point c'est une émission intéressante du point de vue du climat. Ce numéro de Cash Investigation du 24 mai dernier, qu'on trouve en replay sur le site de France Télévisions, s'appelait « Le grand bluff des multinationales ». Et on montre comment, par exemple, dans une conférence tout à fait publique, qui avait lieu à Sciences Po d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps... Le PDG de Total expliquait que son entreprise travaillait sur un scénario qui lui paraissait à lui ou à eux, à Total, le plus probable d'un réchauffement de 3,5 degrés, montrait comment l'entreprise Engie, c'est-à-dire l'ancienne GDF Suez, je cite, carburait au charbon, comment Lafarge et d'autres, finalement, avaient subverti le marché du carbone pour polluer plus sans en avoir l'air, etc. etc. Donc, je vous pose la question très, très simplement, Jean-Pascal Van Iperzel. Qu'est-ce qui vous rend optimiste sur le fait que les engagements pris lors de la COP21 à Paris sont un signal fort qui indique une tendance qui est à l'œuvre et non pas le signal fort d'une communication pour rassurer le bon peuple planétaire?
Bon, je crois qu'il faut effectivement ne pas être naïf et il faut bien se rendre compte que certains sont certainement prêts à avoir des discours pour un public et avoir un autre discours pour un public différent et avoir encore un comportement pire que tous les discours dans l'action et dans la réalité. Cela étant dit, bon, je regarde par exemple les conclusions de la dernière réunion du G7 qui s'est tenue au Japon il y a quelques jours. Ils ont tout de même décidé de supprimer, en tout cas parmi eux, mais les G7 c'est quand même un poids économique extrêmement important, tous les subsides aux énergies fossiles d'ici 2025 par exemple, ce qui va être un élément très important pour décourager l'utilisation des combustibles fossiles, puisqu'on sait qu'aujourd'hui dans le monde, tout à fait paradoxalement, ce sont des combustibles, donc le charbon, le pétrole, le gaz, gaz naturel qui, dans un certain nombre de pays, continue à être subsidié, ce qui est tout à fait paradoxal à la lumière de la nécessité de réduire l'usage de ces produits-là. Donc, bon, je prends cet exemple-là, mais je parle aussi régulièrement à des responsables de grandes entreprises européennes, notamment, et je suis quand même frappé par le fait que la plupart, et on parle là de discours en privé, en petit comité, sont très convaincus du fait que le chemin est celui-là, le chemin de la décarbonation. Alors évidemment, entre le moment où ils sont convaincus, le moment où ils sont prêts à parler dans ce sens-là, et le moment où, dans les actes, toutes ces sociétés vont agir avec détermination, il faudra peut-être encore un petit peu de temps, mais je pense qu'il y a certaines sources d'optimisme, même s'il ne faut pas être naïf, il y a aussi bien des endroits où on traîne les pieds.
Amidaon.
Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Pascal Van Impersel, il y a des sources d'optimisme. De toute façon, le retentissement qu'a eu cet accord, ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qu'il faut souligner, c'est très important, et donc il ouvre des possibilités. Mais évidemment, et c'est pas lui qui va me contredire, tous les scientifiques le disent, nous sommes dans une course de vitesse. Donc c'est ça le problème. Est-ce que nous allons agir avec suffisamment de détermination et d'urgence? Et cette course de vitesse, elle peut nous amener à 1,5 degré peut-être, 2 degrés, 3 degrés, 3,5 degrés. Et évidemment, si nous n'avions absolument rien fait, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu le processus onusien avec ses lenteurs et ses difficultés, etc., Copenhague, s'il n'y avait pas eu Paris, peut-être que... Si l'humanité ne prenait pas du tout en main, on ne serait pas à 3 ou 4 degrés, mais peut-être à 6 ou 7. Et si vraiment tout explosait sans même l'alerte des scientifiques. Donc ça... C'est sûr qu'il y a quelque chose quand même qui s'est passé. La question, me semble-t-il, très importante, c'est de voir à quelle hauteur et avec quelle rapidité les choses vont aller. Et moi, je crois qu'effectivement, un certain nombre d'acteurs, y compris, prenons l'exemple des pays du Moyen-Orient, fournisseurs de pétrole, eh bien, cela joue quand même dans l'ensemble un rôle plutôt de frein et d'obstruction dans les négociations. Mais néanmoins, on sait aussi qu'en même temps, ils réfléchissent à une ère après pétrole, parce qu'ils ne sont pas idiots non plus. Et ils voient le paysage économique. Simplement, ils veulent gagner du temps. Ils veulent gagner du temps et nous, toutes les personnes qui sommes, disons, conscients du péril climatique et des dangers qu'il porte, eh bien, nous agissons dans un autre sens. Nous voulons, au contraire, ne pas perdre de temps, mais en gagner. Et là où l'accord, si vous voulez, me préoccupe un peu, et aussi ce qui s'est passé, par exemple, à Bonn,
au
mois de mai, oui, il y a quelques jours, finalement. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, la société civile, un certain nombre de très grands acteurs ont joué un rôle important pour marcher vers cet accord, ont élaboré des stratégies pour aller vers cet accord. On pourra, si vous voulez, en reparler. Aujourd'hui, donc cet accord a eu lieu, mais néanmoins, si vous voulez, la question, c'est comment ça va être pris en main. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne les 1,5 degrés, qui a été un élément très très important à Paris.
Pourquoi c'est un élément très important?
C'était d'une certaine façon, beaucoup d'observateurs assez proches du processus climatique, ça a été une surprise, dans la mesure où, à Copenhague, il y avait eu un accord un peu de dernière minute autour de 2 degrés, on sait que c'était pas un véritable accord, mais qu'à partir de Cancun et surtout dans la plateforme de Durban en 2011, ça a été entériné comme étant quelque chose qui devait nous conduire jusqu'à Paris.
Il y avait toujours une porte ouverte, si je peux vous interrompre un instant. Il y avait toujours une porte ouverte pour qu'on révise l'objectif et qu'on le rende plus ambitieux. Donc, dès Copenhague, dans le texte, on prévoyait cette possibilité.
C'est vrai, parce que depuis très longtemps, vous avez raison, les petites îles et les pays particulièrement vulnérables disaient, avec une légitimité politique incontestable, que avec 2 degrés, un certain nombre d'entre eux étaient déjà très menacée, peut-être entièrement submergée, etc. Donc ça a toujours été vrai. Mais néanmoins, les scientifiques fonctionnaient sur les 2 degrés. Il y a même eu une controverse dans Nature, dans les mois qui ont précédé la COP, pour dire 2 degrés, on n'y arrivera même pas. Certains disaient ça.
Je pense que ceux qui disaient ça sont sortis de leur rôle et sont sortis de leur compétence.
Peut-être, mais c'était quand même des... Voilà, mais écoutez, j'étais à Paris, et vous le savez bien, quand on a parlé des 1,5 degrés, il y a eu une réunion où se trouvaient pas mal d'acteurs scientifiques qui étaient surpris en disant, mais c'est très très difficile, on n'y arrivera pas. On sait que pour 1,5 degré, on a un budget de carbone de l'atmosphère qui est pratiquement égal à 5 ou 6 années à la hauteur des émissions actuelles. Donc ça veut dire, vous vous rendez compte un petit peu la façon dont des transformations drastiques devraient intervenir à partir de 5 ou 6 ans à partir d'aujourd'hui.
Vous voulez dire qu'il faudrait, si je vous entends bien, Ami Dahan, réduire d'une manière telle les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire que dans cette réunion à laquelle vous faisiez allusion en marge, on va dire, des réunions diplomatiques à Paris, les gens qui étaient là, dont les scientifiques, si je vous entends bien, estimaient que c'était irréaliste, invraisemblable.
Je pense cela. Et ça, maintenant, ça a été accepté, ça a été entéridé parce que ça rentrait dans un deal politique. C'est-à-dire, voilà, les pays du Sud les plus vulnérables n'auraient pas signé cet accord s'il n'y avait pas ça. Je peux le comprendre politiquement. Ça fait partie d'une négociation. Mais à ce moment-là, il faut que, aujourd'hui, on dise, et que les scientifiques aussi le disent avec une force. Je trouve que je me permets de je ne dirais pas de faire des critiques, mais de dire que les scientifiques doivent aujourd'hui véritablement alerter sur l'ampleur des transformations très rapides qui sont nécessaires pour le 1,5 degré. Sinon, on est dans
une incantation.
Oui, et dans une duperie intellectuelle.
Alors, Jean-Pascal Van Niperzel, vous êtes un scientifique et puis vous avez été vice-président du GIEC de 2008 à 2015. Comment vous recevez cet appel, si j'ose dire, d'Ami Dahan, qui est aussi scientifique, mais plutôt aux côtés sciences humaines et sociales?
Alors, je suis 100% d'accord avec elle sur le degré d'urgence et sur le fait que si on veut rester effectivement en dessous d'un réchauffement d'un degré et demi, et y rester toujours, je veux dire même pas dépasser ce niveau-là et puis redescendre un peu plus bas plus tard, l'ampleur des changements qui sont nécessaires est bien plus grande que tout ce qui a été fait jusqu'à présent en matière de politique climatique. 100% d'accord et je l'explique à peu près tous les jours dans les conférences, dans les exposés, dans les interviews que je donne. Cela étant dit, la critique que j'ai par rapport aux scientifiques qui disent 1,5 degré, c'est impossible à réaliser, c'est que je pense que ils font des hypothèses en disant ça sur le degré de volonté politique qu'il pourrait y avoir ou pas. Et ils ont une vision pessimiste de ce degré de volonté politique quand ils disent on ne prendra jamais les mesures nécessaires pour. Moi, je dis au contraire, j'ai tendance à dire les choses assez différemment. Je dis l'ampleur des changements nécessaires est absolument énorme. Et ce qu'il faut, c'est une volonté politique et une volonté à tous les niveaux, au niveau non seulement politique, mais aussi au niveau des entreprises et des citoyens, d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais je suis convaincu que l'avenir est entre nos mains et qu'il est possible de rester en dessous de 2 degrés et probablement 1 degré et demi, en tout cas sur le long terme, quitte à être passé pendant un certain temps au-dessus de la barre des 1 degré et demi et redescendre quelques décennies plus tard, ce qui serait déjà beaucoup mieux sur le long terme que simplement accepter l'objectif de 2 degrés tel quel. Et donc je crois que dire aujourd'hui 1 degré et demi c'est impossible, c'est en quelque sorte démissionner.
Alors s'agissant de volonté politique, puisque si je comprends bien c'est en fait là que se jouent les éventuelles divergences d'appréciation ou convergences, en tous les cas c'est bien là qu'il peut y avoir débat. Va-t-il y avoir une volonté politique à la hauteur des engagements pris? Et avec quels outils sera-t-elle, le cas échéant, transformée en essai, comme on dit, enfin, sera-t-elle mise en œuvre? Je vous propose d'écouter un acteur que je vais qualifier ici comme venant de la société civile, bien qu'il fasse à sa façon pas mal de politique. C'est Nicolas Hulot qui donnait son point de vue. C'était dans la matinale de France Culture du 29 avril 2015. Il évoque à ce moment-là ce qui doit être pour lui un levier de politique publique permettant justement, Jean-Pascal Vanipersel et Ami Dahan, d'aller vers la réalisation des objectifs qui ont été adoptés à Paris en décembre dernier.
Est-ce qu'on va se fixer enfin un prix au carbone? Est-ce que les 15 États qui sont au G20 et d'ailleurs qui seront en Turquie 15 jours avant les conférences de Paris vont enfin se mettre d'accord là-dessus? Comment voulez-vous rentrer dans une économie bas carbone si vous ne donnez pas un prix au carbone? Chacun le sait, il n'y a pas un économiste digne de ce nom qui se soit penché sur ce sujet qui vous dira pas que l'arme fatale pour, encore une fois, rentrer dans cette transition, c'est le prix du carbone.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Cannes.
Alors Ami Dahan, faut-il comprendre que le levier existe, que jusqu'à présent il n'a pas été employé ou que il a été détourné, hein, j'évoquais très rapidement tout à l'heure, la grande manipulation ou instrumentalisation des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Élise Lucet prenait l'exemple de Lafarge, mais bien entendu il y en a d'autres. Hein. Puis il y a eu également une grosse arnaque qui a été découverte il y a quelque temps. Êtes-vous d'accord lorsque Nicolas Hulot dit c'est l'arme fatale, hein, de manière beaucoup plus sûre que les technologies qui pour l'instant n'existent pas encore permettant d'absorber le carbone? Et si oui, est-ce que vous estimez que cette fois, ça y est, les résultats de la COP21 de Paris-Bourget permettent d'être raisonnablement optimiste sur le fait qu'on va vraiment utiliser ce que Nicolas Hulot appelle cette arme fatale?
Non, de ce point de vue-là, je ne suis pas si optimiste que ça. Pour une raison, je crois que c'est effectivement une question stratégique, hein, le prix du carbone, enfin un prix du carbone. À l'heure actuelle, il est clair que tous les pays émergents ou en développement ne veulent pas d'un prix du carbone qui serait le même partout. Ça, c'est exclu. Enfin, aucun accord n'est possible à très court terme sur cette question. Il faut quand même le voir. Il suffit de connaître un peu la géopolitique du climat pour voir que non, l'Inde ne veut pas de ce prix du carbone qui serait le même aux États-Unis et chez elle, parce que la question, elle considère qu'elle a droit à un certain développement et que si on l'empêche d'avoir ce développement, mais elle va utiliser les sources d'énergie qu'elle a. Alors, ce serait possible de ne pas utiliser les sources d'énergie qu'elle a, qui sont massivement le charbon. À l'heure actuelle, elle importe les autres et elle développe, oui, elle développe le solaire, mais pas toujours dans la course de vitesse, pas à une hauteur suffisante pour répondre à ses besoins. Ça, on a besoin de beaucoup d'argent pour cela. Et donc, d'où va-t-il venir cet argent? Effectivement, il faut un prix du carbone, mais il faut que ça vienne aussi plus massivement des pays déjà développés. En tout cas, c'est le point auquel sont attachés les pays en développement ou en voie d'émergence ou plus ou moins déjà émergés. Je mets la Chine un peu à part parce que déjà, c'est maintenant la deuxième puissance mondiale et elle n'a pas exactement le même statut que les autres, que les autres émergents. Mais voilà, donc ça, on n'a pas avancé sur ce point. On n'a pas avancé. Donc, vous avez sur la table plusieurs possibilités. En France même, on a plusieurs personnes qui sont très engagées dans les proches des négociateurs, proches des scientifiques, en particulier des économistes du groupe 3, du GIEC, etc., qui essayent d'élaborer des propositions. Vous savez en particulier que, par exemple, l'économiste Michel Aglietta a élaboré une note récemment sur la question d'un prix directeur du carbone qui serait différencié suivant les grandes zones économiques du monde et qui permettrait que des emprunts pour des investissements bas carbone soient garantis par les banques centrales, dans la mesure où ces emprunts-là seront toujours moins rentables que les investissements spéculatifs de la finance mondiale actuelle. Donc ça, c'est un problème qui est vraiment très, très profond et très compliqué à résoudre. Et là-dessus, on n'est pas très avancé, il faut le reconnaître.
Est-ce qu'on peut dire la même chose, Jean-Pascal Van Ypersel, sur ce fameux fonds vert, hein, si j'ai bien compris, ce fonds de 100 milliards de dollars par an consacré au climat, c'est-à-dire, en fait, dites-moi, hein, si je résume bien les choses, un transfert de financement venu des pays riches pour aider finalement les pays en développement ou les pays émergents à se passer progressivement d'énergie fossile. On a beaucoup dit, me semble-t-il, à Paris, il y a donc 6 mois maintenant, que cette fois, ça y est, enfin, le fonds vert allait être activé de façon satisfaisante. 6 mois après, est-ce qu'on peut continuer à être optimiste comme on l'a été sur le moment, du point de vue des financements?
Alors, je ne suis pas spécialiste de la finance climatique,
bien
mais
sûr.
Effectivement, le financement est un élément très important. Encore une fois, c'est l'autre grande décision qui avait été prise à Copenhague en 2009, hein, de créer le fonds vert avec un financement à la hauteur de 10 milliards de dollars par an pendant les 3 années qui ont suivi Copenhague et l'objectif d'atteindre 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, objectif qui a été renforcé dans l'accord de Paris puisque maintenant c'est au minimum 100 milliards de dollars à partir de 2020. C'est vrai que ce qui est un peu flou, c'est de quel argent il s'agirait. Est-ce que c'est de l'argent provenant de nouvelles ressources, hein? Une préoccupation de beaucoup de pays en développement, c'est le réétiquetage, si je puis dire, de budgets qui étaient consacrés précédemment, par exemple, à la coopération au développement et que on baptiserait contribution, on rebaptiserait contribution à la lutte contre les changements climatiques dans les mêmes pays en développement, mais au détriment de politiques de développement touchant la santé, l'éducation, que sais-je. Et donc, est-ce que c'est une des grandes questions qui n'est toujours pas tout à fait résolue? Est-ce que si on arrive à ces 100 milliards de dollars, et je fais confiance à ceux qui ont l'art de traiter les chiffres pour ne pas utiliser un autre mot, on arrivera à 100 milliards de dollars par an sur papier à partir de 2020, mais qu'est-ce qu'il y aura derrière? Ça, c'est une question qui aujourd'hui n'a pas encore une réponse tout à fait claire. Et puis, comment est-ce que cet argent va être utilisé véritablement au service du développement durable aussi, parce que il y a les changements climatiques, c'est un des problèmes, mais il faut quand même pas oublier que les Nations Unies ont adopté pas plus tard qu'en septembre 2015, donc 3 mois avant la conférence de Paris, 17 objectifs de développement durable, dont les changements climatiques ne sont que l'un des objectifs, et donc ces 16 autres objectifs constituent aussi le contexte dans lequel les efforts de coopération internationale, les efforts de développement, y compris ceux qui concernent la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation au changement climatique, devraient se situer. Hein. Et donc, il y a tout de même encore beaucoup de questions autour de ce financement climatique.
Oui, et puis, Jean-Pascal Van Ypersel, là, vous évoquez quelque chose qui est à la fois très important et qui, malheureusement, si j'ose dire, ne fait que donner le sentiment que la question est très, très difficile à résoudre, puisque, bien entendu, on ne peut pas parler du changement climatique et de la manière de lutter contre lui sans parler des autres grands problèmes à la fois écologiques et de développement. Je me souviens, enfin je parle sous votre contrôle à tous les deux bien sûr, hein, mais je crois me souvenir que certains ont pu regretter que la biodiversité soit à peine évoquée dans l'accord de Paris, alors qu'on sait très bien, c'est bien démontré par les biologistes, que évidemment la réduction de la biodiversité qui se fait à vitesse très accélérée est pour partie due au changement climatique et qu'à l'inverse, la préservation de la biodiversité permet de lutter contre le changement climatique. Bon, je prends cet exemple de la biodiversité, mais d'autres ont pris l'exemple...
L'agriculture, par exemple, l'usage des sols, c'est un problème énorme aujourd'hui.
Voilà.
Et qui rentre clairement en conflit, il faut le dire, avec un certain nombre de questions, des modèles climatiques qui présupposent, pour arriver à 1,5 et même à 2 degrés, des occupations de sols massive, énorme, pour du biocarburant, de la bioénergie, ce qu'on appelle du BECCS, c'est-à-dire à la fois fabriquer de l'énergie à partir des végétaux, etc., et injecter, enfin récupérer les émissions au moment de leur fabrique, les émissions produites, et de les injecter dans le sol. Tout cet ensemble qu'on appelle bioénergie et capture et séquestration du carbone, sous le terme BECCS, c'est très important dans les modèles climatiques aujourd'hui, mais ça présuppose, pour beaucoup de critiques de ce problème, un accaparement des terres au détriment de l'agriculture et de la sécurité alimentaire pour de la bioénergie. Ceci dans une perspective un peu des décennies lointaines.
Oui, d'autant plus que il y a un sujet, si j'ose dire, agricolo-agricole, puisque certains disent que si on baissait considérablement à l'échelle de la planète, par exemple, la consommation de viande carnée, et donc l'agriculture qui a pour fin l'alimentation du bétail, ça permettrait en partie de faire baisser les gaz à effet de serre. Je voudrais vous faire écouter sur ce sujet, parce que c'est également une manière, je vous propose de passer à la manière dont la société civile s'est emparée du sujet, de façon sans doute beaucoup plus intense encore à Paris qu'à Copenhague, par exemple. Je vous propose d'écouter ce que Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, disait quelques heures avant la fin de la conférence du Bourget, de celle-ci, et vous allez voir, il était très critique. C'était le 12 décembre 2015 sur France Inter.
On est tombé d'accord sur quoi ? On est tombé d'accord sur rien, en fait. On est tombé d'accord sur le fait que les multinationales vont continuer à avoir le droit de polluer, que les multinationales vont continuer à avoir le droit d'émettre des gaz à effet de serre, pour peu qu'on essaye de trouver une solution éventuellement sur des compensations. Donc c'est vraiment se moquer un peu du genre. Moi, je pense que voilà, la mascarade du Bourget va prendre fin aujourd'hui. Et puis, pour ce qui est de la Confédération paysanne et notre cœur de projet agricole, de dire que l'agriculture industrielle, elle détruit une partie du climat. Et que l'agriculture paysanne, relocalisée, celle qui est pratiquée par des millions de paysannes et paysannes à travers le monde, elle est vertueuse pour le climat. Elle utilise peu d'engrais, peu de pesticides, peu de transports, donc peu d'énergie fossile. Elle fait vivre des hommes et des femmes, elle produit des produits de qualité. Et ça, c'est la vraie solution. Alors c'est sûr que ce n'est pas dans l'intérêt des multinationales. Bah, c'est ce qu'on va rappeler aujourd'hui, que l'intérêt du peuple et l'intérêt des citoyens, il doit s'imposer aux intérêts privés des multinationales.
Alors il me semble que cette prise de position est intéressante à double titre, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Bon, d'une part, elle est intéressante en raison de la manière dont elle promeut une agriculture non industrielle. Bon, et là-dessus, évidemment, il y a débat, hein. Et puis, elle me paraît aussi également intéressante parce qu'elle montre à quel point la société civile, alors la société civile, c'est des acteurs très, très divers et très variés. Bon, là, c'est la Confédération paysanne, mais il y a eu aussi des grandes ONG comme WWF, et peut-être aussi, à Midan, vous allez nous en parler, des grandes fondations, je ne sais pas si c'était la fondation Bill Gates, mais enfin, on se doute bien qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui, là, sont vraiment intervenus. Et moi, j'avais été très frappé à l'époque par le fait qu'une grande ONG, d'habitude très critique et très vigilante comme Greenpeace, finalement, avait eu une appréciation relativement mesurée de cet accord. Donc, à partir de ces deux pistes possibles, comment vous avez envie de rebondir à cet extrait de la prise de position de Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, Jean-Pascal Vanni-Perzel?
Je crois qu'il met le doigt sur un sujet très important. C'est d'ailleurs un sujet aussi important, de même que ceux qui viennent d'être évoqués par Ami Dahan, que le GIEC va consacrer un rapport spécial dans les années qui viennent à ce rôle particulier de l'agriculture, des sols, de la gestion des sols, de la désertification, du déboisement aussi, qui est un problème majeur, non seulement pour le climat, mais aussi pour la biodiversité dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, dans les 3 ans qui viennent, à peu près, le GIEC va préparer un rapport spécial sur cette question-là et abordera de front la question des, mais sur le plan scientifique bien sûr, mais des conflits potentiels entre la préservation du climat et la sécurité alimentaire par exemple. Mais il y a effectivement toute une série de problèmes qui se posent autour de cela, notamment l'utilisation des sols comme source de biocarburant pour essayer de réduire les émissions de CO2 par les technologies BECCS dont Ami Dahan a parlé tout à l'heure. Il y a un certain nombre de risques et de dangers qui sont associés à ces techniques-là. Et il faut en parler, il faut mettre tous les problèmes sur la table.
Ami Dahan ?
Oui, je suis d'accord avec Jean-Pascal sur le fait que aujourd'hui, cette question de que devons-nous faire pour un monde à 1,5 degré ? Voilà, je je crois que ça, c'est une véritable question qui, évidemment, interpelle les scientifiques des sciences climatiques, des sciences de la nature, mais aussi les sciences humaines et sociales largement. Parce qu'il y aura des choix à faire. C'est-à-dire que entre biocarburants et sécurité alimentaire, entre réduction des vulnérabilités de certaines zones et consommation dans les pays riches, enfin, il va falloir faire des choix et ça, donc les mettre aussi en débat dans les sociétés. Et je crois que puisque vous me parlez, vous m'interpellez sur la question des grands acteurs de la société civile et qui ont joué un rôle. Je crois que je voudrais par exemple mentionner un jeune sociologue, Édouard Morena, de notre équipe, qui va justement intervenir demain dans ce colloque, a fait une recherche très absolument passionnante sur le rôle d'un certain nombre de grandes fondations philanthropiques et de grands acteurs du processus climatique depuis des dizaines d'années, je dirais, comment ils ont, d'une certaine façon, élaboré une stratégie pour, à partir de 2013, en gros, en tirant les conclusions de l'échec de Copenhague, pour aller vers l'accord tel qu'il s'est passé, et aussi pour l'interpréter d'une certaine façon. Et ce qu'on voit, c'est que il y a des grandes fondations philanthropiques, il y a des think tanks comme World Resource Institute aux États-Unis, il y a Greenpeace, il y a WWF et d'autres ONG anglaises, etc., qui ont convergé d'une certaine façon vers cette idée qu'il fallait un accord. Et aujourd'hui, et ensuite ils l'ont interprété un peu de la même façon, très positivement, en disant que c'était une possibilité d'aller plus loin, il serait performatif un peu en lui-même. Mais aujourd'hui, on voit, et ça s'est vu à Bonn, qu'entre ces acteurs-là, il y a un certain nombre de divergences qui apparaissent et qui ont été extrêmement vives à Bonn.
Bonn, je le rappelle, donc
qui était la session intermédiaire entre la COP21 et la finalement
COP22,
la COP22
qui va avoir lieu à Marrakech. Exactement. À l'automne prochain. Et donc Bonn, c'était au mois de mai dernier,
il y a quelques jours. Et justement,
alors ces divergences,
elles sont les suivantes, si vous voulez. C'était à propos justement du BEX et des scénarios à 1,5 degré, parce que un certain nombre d'acteurs, par exemple Teresa Andersen, qui est de International Charity, qui faisait partie un peu de ces acteurs de ce que j'ai esquissé tout là il y a une seconde, sur la préparation de cet accord. Maintenant, elle dit, d'accord, mais pour 1,5 degré, dans les scénarios des scientifiques, il y a beaucoup trop de BEX, et ce BEX, c'est on va, d'une certaine façon, sacrifier les plus vulnérables pour avoir cela, mais c'est la question que je disais, c'est-à-dire les choix. Quels choix ? Et face à elle, il y avait par exemple un scientifique qui s'appelle Bill Hare, qui a été vice-président du GIEC pour le rapport précédent, le troisième, je crois.
Il n'a jamais fait partie du bureau du GIEC. Il a été auteur du GIEC, mais il n'a jamais été dans l'équipe exécutive.
Enfin, c'est un scientifique. Lui, il disait, on peut pas s'en passer du BEX aujourd'hui pour 1,5 degré et même pour 2 degrés. Et donc, voilà. Donc, le débat est vif. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et en même temps, peut-être que c'est la consommation des pays riches qu'il va falloir changer de mode de production et de consommation, de mode de vie. Mais toutes ces choses-là, je dirais qu'il y a une sorte d'éléphant dans la pièce, mais on n'en parle pas de ça. On n'en parle jamais, ce n'était pas dans l'accord. Mais maintenant, il va falloir que ça rentre dans les débats.
Mais qu'est-ce qui peut faire que ça ne reste, que ça aille au-delà, si j'ose dire, de débats spéculatifs, parce que je vois bien que, évidemment, dire et même écrire et même signer à 195 pays, puis il faudrait quand même qu'on dise un mot sur la probabilité ou non de la ratification et dans quel délai, parce que pour l'instant, bien l'accord sûr. Est signé depuis le 22 avril dernier, mais encore faut-il qu'il soit ratifié par, si je ne m'abuse, au moins 55 des États signataires. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on va passer, j'allais dire, du stade spéculatif, c'est-à-dire celui où, comme vous le faites là tous les deux, pour éclairer nos auditeurs, voilà ce qu'il faudrait faire. On a, par ailleurs, on a un accord, mais qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, une société se prenne en main, impulsé, sous l'impulsion ou non des dirigeants politiques, et passe justement à des pratiques qui nous mènent vers une économie décarbonée ou une agriculture ou une alimentation sans viande ou avec beaucoup moins de viande. Voilà.
Je crois que, si vous voulez, on est au début d'un processus, mais
C'est quasiment un changement de civilisation.
Absolument. En fait, hein. Moi, je crois que c'est un changement de civilisation. Mais aujourd'hui, par exemple, regardez ce qui se passe sur les énergies fossiles. Eh bien, il y a des campagnes sur la... pas sortir de toutes les énergies fossiles, mais au moins sortir du charbon. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'avancer depuis décembre.
Ah, et justement, il y a un mouvement de désinvestissement d'un certain nombre.
Alors d'ailleurs, le Total, par exemple, comment certains grands acteurs des sources fossiles, comme Total, dit, nous au moins, nous sortons du charbon. Les autres, ils utilisent encore le charbon, mais nous, on va sortir. On sait que le charbon est le plus polluant du point de vue du cycle du carbone, etc., par rapport au pétrole et au gaz. Donc voilà. Donc ça commence, cette campagne. Et je crois qu'on... et il y a aussi eu une campagne de signatures, etc. Par exemple, en Suisse, je suis allée parler plusieurs fois dans des meetings, eh bien, il y a un mouvement de la société civile qui dit aux financiers, il faut désinvestir des portefeuilles, tout ce qui est le charbon. Ceci a eu lieu dans le passé, au moment par exemple où il y a eu des campagnes sur l'Afrique du Sud, etc., et où il y avait des campagnes de mobilisation, et aujourd'hui par l'intermédiaire du net, ça peut quand même aider à prendre en main des choses. Bon, on est au début.
Et vous, pour votre part, Jean-Pascal Van Impersel, est-ce que vous avez le sentiment que la mobilisation des scientifiques, qui est très très forte depuis 20 ou 25 ans maintenant, hein, puisque évidemment, si j'ose dire, d'une certaine manière, à l'origine de tout ça, il y a les premières recherches faites par les scientifiques et puis qui à un moment donné sont prises en charge, synthétisées à la demande des gouvernements par le GIEC. Vous disiez à l'instant, enfin il y a 5 minutes, hein, que le GIEC allait faire un certain nombre de rapports intermédiaires sur différentes options, notamment, hein, voilà. Des choix de politique publique à faire ou de vie, si j'ose dire. Est-ce que vous pensez que la communauté scientifique joue un rôle de plus en plus important au sein de ces acteurs de la société civile ? Est-ce que vous êtes content avec le recul que vous pouvez avoir maintenant ? Vous avez été vice-président du GIEC pendant de 2008 à 2015. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont la communauté scientifique se mobilise, de la manière dont ses conclusions sont écouter ou en tous les cas utiliser, ou est-ce que maintenant que vous commencez à prendre un tout petit peu de recul par rapport à cette lourde fonction qui était la vôtre, vous avez des préconisations à faire justement sur la place de la communauté scientifique dans la société civile par rapport à tout ce processus?
Alors je pense qu'il faut faire attention de ne pas verser dans la république des savants. Hein. Je pense qu'il y a quelques dangers qui seraient associés à une situation comme celle-là aussi. Donc je ne suis pas pour que les scientifiques prennent le pouvoir.
Bon, on n'en est pas là de toute façon. Hein.
Non, on n'en est pas là. Et heureusement, je pense. Mais je pense que le diagnostic qui a été fait par les scientifiques, qui a été porté au plus haut par le GIEC ces dernières années, est enfin passé. S'il y avait autant de chefs d'État et de gouvernement à Paris, si l'accord a été soutenu unanimement, s'il y a eu tant de signatures dès le premier jour de l'ouverture des signatures le 22 avril à New York, c'est parce que je pense que plus personne de sérieux ne met en doute la réalité du problème, le fait que ce sont les activités humaines qui en sont la cause principale, en tout cas depuis une cinquantaine d'années, et ne met en doute que l'outil pour le levier pour s'attaquer au problème, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent principalement de la combustion des combustibles fossiles. Donc, les bases scientifiques sont maintenant bien connues, bien solidement établies. Donc, je crois que la communauté scientifique a, au sens large, bien joué son rôle et que maintenant, le relais doit être pris par les décideurs. Et là, je suis entièrement d'accord avec Amidaan quand elle disait tout à l'heure le sentiment d'urgence réelle de manière à gagner cette course de vitesse entre le système climatique qui, lui, continue à évoluer sans se préoccuper de la lenteur avec laquelle les négociations internationales se produisent et l'action sur le terrain. Et donc, oui, la communauté scientifique a fait un bon travail, mais je dois quand même constater qu'aujourd'hui, même si l'accord de Paris est historique et remarquable, que le niveau de mobilisation au plan international est toujours très insuffisant par rapport à l'ampleur du problème. On devrait aller beaucoup plus vite vers une décarbonation de nos activités et on devrait beaucoup plus se demander comment changer la manière de produire, la manière de se transporter, la manière d'habiter, de se chauffer, de se refroidir là où il fait trop chaud, etc., de manière à réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc,
est-ce que vous pensez, Ami Dahan, que ce que Jean-Pascal Van Impersel vient d'appeler de ses voeux, ça passerait ou ça passera par une organisation mondiale du climat, quelque chose dont on a un peu entendu parler par différents types d'acteurs, ou bien est-ce que vous pensez que ça devrait passer par une forme de d'invention juridique dans le droit international du concept de justice climatique? Après tout, il y a bien une époque où quelque chose qui paraissait, quoi qu'on en pense, une utopie juridique, je pense au droit d'ingérence, qui évidemment fait l'objet de controverses et de discussions, mais à un moment donné est passé dans le droit international. Est-ce que cette notion de justice climatique qui n'apparaît pas en tant que tel dans l'accord de Paris, ou est-ce que cette idée d'organisation mondiale du climat, c'est quelque chose d'abord qui vous paraît pertinent et d'autre part dont vous pourriez dire aujourd'hui, bah tiens, on sent que ça pourrait advenir?
Franchement, moi, l'idée d'organisation mondiale du climat, j'y crois pas du tout. Je pense que de la même façon qu'à Rio, en 2012, l'idée d'une organisation mondiale de l'environnement avait été proposée, finalement, par l'Europe et les États-Unis, et a été récusée, mais extrêmement sèchement, par les pays en développement, en particulier émergents, le Brésil qui était la puissance hôte, mais aussi la Chine, l'Inde, enfin tous ces pays ne veulent pas entendre parler d'une grande organisation qu'ils perçoivent comme étant bureaucratique, enfin etc. Il y a déjà l'ONU d'une certaine façon. Ouais. Qu'est-ce qu'on va créer de plus et ça va donner quoi?
Parce qu'on créerait de plus, c'est...
Je suis d'accord. Hein.
Je me fais en un mot l'avocat du diable. Organisation mondiale du climat, c'est OMC comme Organisation mondiale du commerce. Et comme vous le savez, l'Organisation mondiale du commerce a cette différence, certains diraient cette supériorité par rapport à l'ONU, qu'elle a un aspect supranational et donc un aspect contraignant dès lors que les décisions
sont prises. Oui, mais c'est parce qu'il y a véritablement des mesures de rétorsion en ce qui concerne la liberté du commerce quand quelqu'un ne respecte pas ceci ou cela. On peut l'exclure.
Avec un tribunal, voilà. Procédures de négociation pour mettre les gens d'accord. Donc, une Organisation mondiale du climat, ça serait différent de l'ONU qui, comme chacun sait, n'est pas contraignante.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, c'est très peu vraisemblable. Comment voulez-vous que ça soit accepté aujourd'hui? D'une certaine façon, l'ONU, moi je l'ai beaucoup critiqué, c'est une fabrique de la lenteur, etc. Mais c'est peut-être aussi la moins mauvaise façon de ne pas se faire la guerre.
Oui, le mieux est l'ennemi du bien, bien entendu.
Voilà, donc il faut... Et ce problème, on n'arrivera jamais à... sauf si les sociétés civiles sont suffisamment... mobilisées, puissantes, imposent des choses à leur propre gouvernement, on n'imposera pas de l'extérieur telle ou telle politique à l'Australie, à l'Inde, la Malaisie ou Pologne. Qu'il faut voir que c'est ça aussi. L'Union européenne, qui était la bonne élève du processus pendant des années et des années, aujourd'hui, elle va être la dernière à ratifier, on le sait, pratiquement une des dernières à ratifier le traité de Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes politiques en son sein. Certains pays voudraient peut-être ratifier seuls, mais pas au sein de l'UE, parce qu'il y a des répartitions de quotas et des machins comme ça. Bon, voilà, c'est très difficile.
Mais alors du coup, Jean-Pascal Van Impersel, est-ce qu'on ne va pas, en raison de cette lenteur, et bon, soyons réalistes, voilà, il faut prendre les sociétés, la communauté internationale telle qu'elle est, il vaut mieux un accord très lent que des pays qui se font la guerre, une Organisation mondiale du climat, bon, c'est une utopie, c'est pas demain la veille, mais alors du coup, est-ce que l'un des résultats massifs de ces accords de Paris ne va-t-il pas être qu'il va y avoir... certes, une progression générale, on va dire, mais surtout des grands gagnants et des grands perdants.
Est-ce que, de fait,
on n'est pas en train de se préparer à ça, quoi, à finalement un résultat très inégalitaire entre des gagnants et des perdants de l'accord de Paris?
Mais je pense que petit à petit, tout le monde va finir par comprendre que c'est l'humanité tout entière qui va être perdante si on ne fait pas face au problème. Parce qu'il faut quand même se souvenir que quelques degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre, on se rend compte beaucoup trop peu, j'explique ça dans toutes mes conférences, ce que ça signifie au plan global, c'est un changement potentiel gigantesque qui changerait l'habitabilité de la plupart des régions de la planète, qui changerait le niveau des mers sur le long terme, menaçant toutes les villes côtières de manière substantielle, mettant à mal une bonne partie de l'agriculture mondiale. Donc finalement, c'est tout le monde qui devient perdant. Et je pense qu'on va petit à petit comprendre ça. C'est tout le monde qui devient perdant si on n'arrive pas à changer la manière de faire. Et bon, moi je suis convaincu que je reste optimiste. Moi, peut-être on peut me critiquer pour ça si on veut, mais je pense qu'il faut utiliser l'énergie qu'on a pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Et je pense qu'il est possible de le faire. Je crois aussi que de plus en plus les opportunités de lier la solution des problèmes climatiques à la solution d'autres problèmes. Je vais prendre un exemple. Un des leviers majeurs pour réduire les émissions dans les pays développés, en tout cas, c'est l'efficacité énergétique. C'est la réduction des gaspillages d'énergie, notamment dans les bâtiments, qui est probablement le secteur dans lequel les gaspillages sont les plus importants. Si on veut réduire ça, et il faut s'attaquer à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir des plans à grande échelle, à l'échelle des villes, à l'échelle des collectivités, pour rénover en profondeur les bâtiments en faisant notamment l'isolation par l'extérieur. Ça créerait une quantité d'emplois absolument gigantesque. Ça relancerait l'économie, mais d'une manière vertueuse, pour quelque chose de très utile. Les gens verraient que, ayant investi, parce que je crois qu'il faudrait bien sûr une aide des pouvoirs publics, mais il faudrait aussi que les gens acceptent de mettre une partie de leur épargne, qui souvent dort à ne rien faire, dans cette direction-là, verraient que, ayant investi de cette manière-là, ben, leur facture énergétique diminue substantiellement, que la qualité de vie à l'intérieur de ces bâtiments est bien meilleur qu'avant, etc., etc. Sait-on qu'aujourd'hui, en Europe, par exemple, on dépense 400 milliards d'euros chaque année pour importer des combustibles fossiles. Donc, au-delà du problème climatique posé par l'utilisation de ces combustibles fossiles, est-ce qu'on ne pourrait pas, en utilisant autrement ces 400 milliards d'euros qui sortent de l'Europe chaque année pour les combustibles fossiles, faire tellement de choses utiles pour améliorer l'éducation, financer la recherche, améliorer les systèmes de santé, améliorer les infrastructures durables, si on n'avait plus besoin de combustibles fossiles. Donc je crois que l'avenir peut être beaucoup plus rose que celui vers lequel on va si on continue à ne rien faire.
Ami Dahan.
Oui, je suis d'accord avec cette perspective. Moi, j'ai quand même, je crois que le monde est très pluriel aujourd'hui. Il y a des initiatives et des changements partout. Donc, je suis plutôt pour une gouvernance polycentrique. Hein. C'est-à-dire qu'on attend énormément de ce que beaucoup de pays vont faire. Et ils sont en train de les faire, finalement. Parce que, comme le dit Jean-Pascal et d'autres, eh bien, il y a des co-bénéfices à lutter contre le changement climatique, et des pays très importants comme la Chine s'en aperçoivent, ça permet de réduire des pollutions, etc. etc. Donc ça, mais la question importante, c'est comment juguler les multinationales qui vivent de ça, et il y en a un certain nombre, et ça il faut réguler, il faut combattre, etc. Et puis le rythme auquel tout ça va avoir lieu.
Merci beaucoup. L'émission touche à son terme. Merci beaucoup donc Ami Dahan et Jean-Pascal Van Hyperzel.
Merci à vous.
Pour vos précieux éclairages, les liens vers vos sites internet et vos publications sont accessibles depuis la page de Planète Terre sur France Culture. Je rappelle Ami Dahan que vous êtes notamment co-auteur de Gouverner le climat, quel futur possible, 20 années de négociations internationales, paru l'année dernière aux presses de Sciences Po. Et je rappelle Jean-Pascal Van Hyperzel que vous êtes auteur d'un livre d'entretien intitulé « Une vie au cœur des turbulences climatiques » qui est également paru en 2015 aux éditions de Buck. C'était donc COP21, l'accord sur le climat 6 mois après, accord historique ou poudre aux yeux. Luc Jean Reynaud, Jean Frédérics, le Centre de presse internationale de Radio France et Pierre Benazet à Bruxelles, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission que vous pouvez écouter à nouveau en ligne sans limite et que vous pouvez podcaster durant une année. Vous pouvez aussi la partager sur mes comptes Facebook et Twitter et sur ceux de mes invités. Je rappelle pour prolonger tout cela que Amy Dahan vous invite au colloque qu'elle co-organise à la Sorbonne demain après la COP21, où en est la climatisation du monde, et que demain dans la Marche des Sciences, jeudi à 16h, Aurélie Luneau présentera le portrait de Vinciane Després, une philosophe et une éthologue.